Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec la musique, on a eu un petit problème. Donc, on est présentement le lundi 23 septembre, il est présentement 1h05 et nous vous souhaitons la bienvenue à un autre épisode des Attachés de presse. On a un petit changement aujourd'hui, Monsieur Renaud Duval est absent, donc c'est moi, Lily-Jeanne, qui va faire votre animation aujourd'hui, accompagnée de nos chers chroniqueurs, Rémi, Félix et Mégane. Hey. Salut tout le monde!
Bonjour, salut. Bonjour.
Bien bonjour.
Donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Rémi, c'est quoi ton sujet?
Oui, donc moi aujourd'hui, je vais vous parler en fait du sommet de l'avenir qui a eu lieu aux Nations Unies cette fin de semaine. Et je vais revenir un peu sur les principales propositions, qu'est-ce que les différents diplomates en ont pensé. Justin Trudeau a fait un discours. On va faire un petit tour de qu'est-ce que c'était ce fameux sommet et les conséquences possibles pour l'ordre mondial.
Super. Félix, toi, ton sujet?
Moi, je vais vous parler du nouveau gouvernement français qui a été annoncé samedi, en fin de semaine. Puis donc voilà, je vais faire une courte analyse et soulever les petits enjeux que ça pourrait soulever. Qui pourrait déclencher en même temps.
Good. Meg?
Ben moi, je vais faire une chronique d'actualité du passé un peu. Donc, de mon côté, je vais me concentrer sur les Filles du Roi. Hier, c'était le 22 septembre, donc la date à laquelle les Filles du Roi sont arrivées en 1663, si je ne me trompe pas. Donc, bref, un petit retour sur leur histoire puis sur leur importance là, au Québec.
Super, tout le monde, ça s'annonce pour être une courte émission quand même, puisque certains de nos autres chroniqueurs sont pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va faire du mieux qu'on peut. Donc, pour commencer, on va parler d'actualité. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a touché cette semaine dans l'actualité ou en fin de semaine passée. Est-ce que quelqu'un aurait un sujet qu'il aimerait aborder?
Je vais y aller rapidement avec François Legault en général. Puis en plus tout ce qui lui est lié, donc Northvolt qui a annoncé ce matin la suppression de 1600 emplois dans ses usines en Suède, mais qui garantit que l'usine à Montérégie va continuer. Donc voilà, donc les fameuses entreprises qui licencient 1600 personnes et qui continuent de survivre, donc on a beaucoup d'espoir là-dedans. Donc puis là en plus avec tout l'enjeu des finances publiques qui sont comme démesurées, qui ont été injectées dans ce projet-là, puis que c'est comme flou un peu, François Legault refuse un petit peu de répondre aux questions. Fait qu'on sait comme pas trop à quoi s'attendre, mais on espère pas trop que les finances publiques vont couler avec le bateau Northvolt. Surtout connaissant la politique fiscale du gouvernement suédois liée justement à la chute des entreprises. Donc on peut pas compter sur le gouvernement suédois pour aider l'entreprise à se relever. Bon, qui est quand même une bonne affaire, mais en tout cas, voilà. Puis au niveau de François Legault qui sollicite Paul Saint-Pierre Plamondon pour agir auprès du Bloc québécois. Donc c'est quand même curieux là, j'ai l'impression que le monde est à l'envers. Mais bon, on va voir ce que ça va donner là, surtout avec tout ce qui se passe au fédéral cette semaine. L'émission de la semaine prochaine s'annonce haute en couleurs.
ça, c'est sûr que oui.
Ça va être merveilleux.
Mais parlant de François Legault aussi, il fait beaucoup la une cette semaine, là, surtout par rapport à Northvolt. On se rappelle que la semaine passée, PSPP avait publié sur sa page Instagram une vidéo de 10 minutes décortiquant un débat en chambre qu'il avait eu avec François Legault sur le sujet de Northvolt et la question des fonds publics. On en avait parlé un peu la semaine passée. Et puis là, aujourd'hui, il a demandé en chambre de faire un débat d'urgence sur la question de Northvolt. Qu'est-ce qui va se passer avec les fonds publics? Où on est rendu? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on perd, comme Félix le dit, 1600 emplois. Et puis, on n'a jamais vu un débat d'urgence outre qu'en 2017, quand il y a eu la série S avec Bombardier. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais François Legault fait la une pour pas tant les bonnes raisons présentes.
Comme à l'habitude, on va se dire.
Ouais, la CAQ est un régime en perdition. Voilà.
Un peu comme les libéraux, tu sais, on voit qu'il y a vraiment une chute des deux partis forts et puis à voir qu'est-ce que ça va donner, parce que justement demain, Demain, mercredi, c'est demain la motion du vote de confiance. Et puis là, par rapport à François Legault qui avait demandé en fin de semaine à Yves-François Blanchet de faire tomber la motion, donc pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de vote de confiance. Et puis Yves-François Blanchet, on se rappelle, il a répondu sur la plateforme X qu'il ne répond pas à François Legault. C'est pas lui son patron. Il veut faire qu'est-ce qu'il désire.
Ben, en fait, il lui demandait de faire tomber le gouvernement libéral. Mais bon, prise de position un petit peu étrange, surtout connaissant l'affiliation politique de certains ministres de la CAQ qui quittent le bateau tranquillement pas vite pour... en tout cas, c'est les analyses qui en ressortent pour aller rejoindre les conservateurs au fédéral. Donc, bien hâte de voir comment ça va s'en aller.
Surtout que, comme, si je ne me trompe pas, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a mentionné qu'en octobre, il souhaitait peut-être mettre de l'avant une motion pour faire tomber le gouvernement éventuellement, mais que clairement, cette motion-là va être utilisée de façon stratégique afin de pousser les enjeux, les négociations que le Bloc met de l'avant, notamment la question des pensions pour les personnes aînées au Québec, ce genre de choses-là. Fait qu'on va voir ce qui se passe en octobre. Mais je pense que pour l'instant, le Bloc québécois, d'un point de vue de politique publique et de proposition, a l'impression qu'il a un fort levier, un rapport de force intéressant. Donc, avoir la stratégie, avoir si ça valait la peine pour François Legault de se mettre une étiquette pro-polièvre dans le futur. Là.
Oui, est-ce qu'on avait un autre sujet que quelqu'un aimerait discuter aujourd'hui d'actualité?
Ben, oui. Comme à mon habitude, je reviens avec des sujets un peu... des sujets originaux, mettons. Donc, l'an passé, pour ceux qui écoutaient à ce moment-là, j'avais parlé de la fameuse Saint-Pétronille, le conflit.
Incroyable, chronique incroyable.
Sur l'île de Nouvelle-Orléans. Là, je reviens encore, je retourne en région de Québec pour un autre conflit, mais cette fois-ci, pas dans la ville, mais entre voisins. Donc, un conflit qui a réellement dégénéré. C'est assez gros. Donc là, la cour vient de trancher. Un des voisins, donc M. Terrien, va devoir payer 88 000 $ en dommages à ses voisins.
Salut.
Et tout ça, je vais expliquer très brièvement, tout ça a débuté à cause d'un droit de passage. Donc, M. Terrien, qui avait deux domiciles, en fait deux terrains, a décidé d'en vendre un, mais voulait s'assurer que son droit de passage à son deuxième terrain était possible. Et finalement, quelques années plus tard, quand des nouveaux propriétaires, en fait, arrivent sur la maison, il décide en fait de bloquer le passage à M. Terrien parce qu'il y avait des grosses flaques d'huile de ces
véhicules à moteur.
Ces véhicules, ouais. Exactement, qui venaient là, tacher le passage. Et là, ça l'inquiétait au niveau naturel, là, l'environnement, ces choses-là. Donc, bref, décide d'enlever le passage parce qu'ils ont réalisé que le passage appartenait au nouveau propriétaire et non pas à M. Terrien. Il y avait eu une erreur qui avait été faite en 2005 quand il avait analysé ses droits de propriété. Et donc, le droit de passage ne lui appartenait pas. Suite à ce blocage-là, c'est parti en couille, comme on le dit en bon québécois. Et donc, rapidement, M. Terrien a décidé de foncer avec son véhicule vers son voisin. Okay. S'est ramassé en cour pour un dossier criminel pour attaque avec une arme, en fait, son arme étant son auto. Puis, par la suite, a commencé à faire des menaces verbales, afficher des belles pancartes écrit « fuck you », manger de la marde, des compagnies à ses voisins. Et ce petit coin de pays-là, en fait, une belle vue. Là. Chaque maison voit
des belles pancartes.
Un beau paysage et ces choses-là. Et lui a décidé de bloquer ça avec des sièges de toilette et des pack en plastique qu'il a accroché dans les arbres pour que ses voisins ne puissent pas profiter de la belle vue. Et ça l'a dégénéré vraiment au moment où les nouveaux propriétaires commençaient à trouver que leur eau goûtait bizarre, avec quelque chose d'étrange. Ils se sont ramassés. Et en fait, la grand-mère et la mère se sont retrouvés à l'hôpital pour des complications.
Tu vois pas qu'il a fait caca dans le cœur, tes
yeux. Non, quand même, un peu plus de classe que ça. Mais ils ont trouvé 9 remords. Donc, M. Terrien, ça faisait des mois qu'il allait jeter des remords dans leur puits et pour infecter ses voisins. Tout ça à cause d'un droit de passage. Une histoire assez insolite là, quand on y pense. Là, tout ça pour des flaques d'huile. Donc, c'était ma petite parenthèse rapide de conflit en municipalité québécoise.
J'ai une info d'insider. M. Terrien, c'est Michel Terrien, l'ancien coach du Canadien de Montréal. Non, c'est pas vrai, je dis.
OK, je pensais que tu me disais quelque chose de gros.
Non, totalement une grosse blague.
Les péripéties du municipal. Hein.
Ouais. C'est toujours le fun à...
dans le coin de Québec...
Dans le coin de Québec, il y en a beaucoup.
C'est Île d'Orléans, ça brasse pas mal.
Oui. Non, fait que on va continuer à suivre Radio-Canada Québec pour voir davantage... ce qui se passe dans leur municipalité.
Mais on aime toujours ça, Mégane, quand t'arrives avec des anecdotes municipales comme ça. L'année passée, le petit vin from, les bibliothèques.
Et voilà.
Ah, moi j'adore. Sur ce, la gang, on se quitte et on s'en va en pause pour revenir en force avec notre première chronique qui sera avec Félix. Donc, re-bienvenue tout le monde. C'est maintenant le moment de la chronique à Félix. Félix, la place est à toi.
Parfait. Donc, voilà le moment le plus attendu de la semaine, hein, ma chronique, comme d'habitude. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Donc, ça y est, pratiquement 2 mois et demi après les élections législatives anticipées de juillet dernier, la France a enfin un nouveau gouvernement. Mais bon, vous commencez à me connaître. Il faut pas se réjouir trop vite quand je fais mes chroniques. Donc, dévoilé samedi dernier, le gouvernement du nouveau premier ministre Michel Barnier laisse une grande partie de la sphère politique française perplexe. Effectivement, sur les 39 ministres qui composent le nouveau gouvernement, le ministre de la Justice, Didier Migaud, est issu de la gauche. Il faut rappeler que l'Alliance des partis de gauche, donc le Nouveau Front populaire, est arrivé en tête des élections, remportant 196 sièges à l'hémicycle. Et donc voilà, il y a comme une espèce de distorsion dans la représentation de la composition de l'Assemblée nationale au niveau du cabinet. Donc, la nomination du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est un conservateur catholique, opposé notamment au mariage pour tous et un petit peu ambivalent sur la question de l'avortement, ou encore celle de la secrétaire d'État à la consommation, Laurence Garnier, elle aussi opposée au mariage pour tous, donne le ton à ce nouveau gouvernement jugé comme étant très à droite, voire trop à droite, considérant les derniers résultats électoraux. Donc là, je vais prendre un moment pour qu'on se rende compte à quoi on fait face. Cette nomination des ministres, elle confirme, et on s'en doutait depuis la nomination de Michel Barnier comme premier ministre, qu'Emmanuel Macron, premièrement, il se rapproche drastiquement de la droite et semble quitter le centre. Et puis aussi qu'il est en train de créer un précédent dans la 5e République en refusant une réelle cohabitation. Donc même si Michel Barnier n'est pas directement issu de son mouvement, les membres du gouvernement et le soutien parlementaire, et la communauté comme parlementaire qui les soutient en chambre, sont soit des collaborateurs de Macron direct ou ils sont extrêmement proches du président. Donc voilà, il crée un précédent par le non-respect de ce vote populaire-là. Donc, gouvernement réactionnaire ou gouvernement des perdants, les critiques du nouveau gouvernement sont nombreuses. À gauche, le nouveau Front populaire promettait déjà de censurer le gouvernement, même avant que ce dernier soit nominé, et semble pas vouloir déroger à sa promesse. Barnier et son cabinet sont effectivement considérés comme illégitimes par la gauche, qui considère que les nominations sont antidémocratiques, justement à cause de cet enjeu-là de représentation. Donc à l'extrême droite, le Rassemblement national de Jordan Bardella avance que ce gouvernement n'a aucun avenir, puisque les Français ont refusé par 2 fois, en particulier aux élections européennes et législatives, un nouveau mandat des macronistes. Par contre, je me demande réellement si le Rassemblement national va lui aussi voter la censure, considérant que Barnier et son gouvernement, d'un, ils sont de droite, puis il y a beaucoup de ministres. Il y en a quelques-uns qui rejoignent les valeurs du Rassemblement national sur certaines questions, notamment sur les enjeux de sécurité, d'immigration et quelques valeurs sociales. Donc, je pense que c'est impossible d'affirmer que le gouvernement soit immédiatement défait à son arrivée, parce que justement, le Rassemblement national dispose d'une espèce de levier. C'est comme eux qui ont la balle entre leurs mains. T'sais, la gauche, on le sait, qu'ils vont sans doute censurer le gouvernement directement au début de la session parlementaire. Puis, le camp présidentiel n'a pas assez de députés comme pour dealer avec ça. Fait que j'ai hâte de voir ce que le Rassemblement national va faire. S'il va essayer de pousser pour avoir des politiques qui penchent un peu plus de son côté, ou s'il va essayer de jouer le tout pour le tout puis embarquer dans la motion de censure. Donc, voilà, tout ça, c'est sans compter que le Rassemblement national s'est jamais vraiment opposé à la nomination de Michel Barnier au poste de premier ministre au début du mois. Donc, dans une entrevue donnée hier, le 22 septembre, Michel Barnier a dressé le portrait des intentions de son gouvernement en adressant ses différents objectifs et ses priorités. Il a notamment débuté en rappelant que son gouvernement n'était pas un gouvernement de cohabitation, car proche de Macron, donc comme je l'ai dit, mais qu'il ferait en sorte de faire respecter l'indépendance du gouvernement dans l'intérêt du pays. Au niveau fiscal, Barnier a annoncé ne pas vouloir augmenter les positions des Français moyen, mais a exprimé qu'il considère totalement cibler les plus grandes fortunes du pays et les grosses entreprises afin qu'elles contribuent elles aussi au règlement de la dette nationale qui est conséquemment vraiment beaucoup élevé. Puis ça passe notamment par la nomination d'un nouveau ministre de l'économie qui vient remplacer Bruno Le Maire puis qui change vraiment sa... En tout cas, semble vouloir vraiment changer son orientation des politiques économiques là, de bord. Sur l'immigration, Barnier, il promet une gestion plus rigoureuse de l'enjeu et une mise au diapason avec les autres États européens afin de, et je cite, « limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. » Bon, là, j'ai un peu de difficulté à avaler cette rationalisation-là de l'enjeu, qui a un peu pour objectif de faire passer la pilule, mais sachant que le Rassemblement national est dans les parages et que le ministre de l'Intérieur semble être tout sauf un social-démocrate scandinave, ben, en tout cas, je soulève des inquiétudes quant à la légitimité de cette justification-là, qui est souvent utilisée ici au Québec par le Parti québécois, mais dans un autre contexte complètement différent, qui fait que, bon, ça peut passer. Maintenant, bon, place au sujet sensible. Barnier, il s'est engagé à améliorer la réforme des retraites. Donc, il a dit améliorer, je sais pas, selon lui, c'est... Bon, parce que, comment il va améliorer ça? Mais, justement, en accordant une confiance plus accrue aux acteurs sociaux, donc aux acteurs du milieu, qui, on l'a vu pendant les manifestations là, liées à cet enjeu-là, ont émis beaucoup de critiques face à la mesure du gouvernement Macron. Je sais que lorsqu'on analysait un petit peu au début du mois la nomination de Barnier, il y avait cet enjeu-là de la réforme des retraites qui ressortait. Je pense qu'il y avait une inquiétude quant au fait qu'est-ce qu'il allait faire justement avec ça, puisqu'on soulevait la possibilité qu'il pouvait soit la maintenir, la rendre pire au niveau de l'âge, en augmentant l'âge, ou jouer sa carte du compromis puis du gentil monsieur en écoutant la volonté populaire puis en abaissant l'âge. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Concernant l'avortement, on sait qu'il y a une loi pour inscrire l'avortement dans la Constitution en France qui, à droite, est un petit peu controversée. Donc, notamment le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui était opposé justement à l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Ben, justement, concernant cet enjeu-là, et aussi la procréation assistée, puis les différentes lois émancipatrices pour la communauté LGBT, dont la pérennité pourrait être mise en danger sous un gouvernement de droite, le premier ministre s'est formellement engagé à les préserver et a aussi préservé intégralement toutes les lois qui relèvent du progrès social ou sociétal. Donc ça, point positif, moi, j'aime bien. Je trouve que pour un gouvernement de droite, c'est quand même assez... gouvernement de droite, c'est intéressant de voir que sur des questions sociales, il est comme moins braqué, il est comme plus open à la discussion. Mais bon, là, on reste à voir qu'est-ce que ça va donner dans le réel. Mais pour l'instant, ce qu'il dit, ça semble aller dans la logique de l'argumentaire de Macron qui justifiait sa nomination, comme quoi c'est quelqu'un du compromis, puis de l'ouverture.
Mais ce qui est intéressant à noter aussi, c'est le fait que des ministres et des députés issus de la majorité présidentielle avaient émis des inquiétudes vis-à-vis du fait que, notamment le ministre que tu as mentionné, qu'il y avait plusieurs ministres appartenant à la droite, des LR, puis des droites en général qui sont plus réactionnaires, puis qui sont plus assumés. Puis clairement, on voit un effort là, d'équilibrer ou d'avoir une espèce de gérer la chèvre et le chou un petit peu, là, mm-hmm. Clairement.
Puis on le voit, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui souvent soulevait un petit peu les passions là, quant à son côté, je dirais, fan de l'ordre et de l'autorité. Ça soulevait des enjeux, mais là, on est face à un nouveau ministre de l'Intérieur qui est différent parce qu'il est moins centriste, il appartient plus à la droite comme conservatrice un petit peu traditionnelle française, mais qui, sur des positions comme la sécurité ou l'immigration, il va quand même là, d'une... il va pas de main morte, il niaise pas avec la peau, comme on dit. Puis, donc voilà, Rémi, je vais sortir une petite référence historique, là, tu vas peut-être aimer. Tu sais, lui, il a été proche, il a beaucoup fait sa carrière politique en Vendée, donc tu peux relate. On connaît... la réputation conservatrice des Vendéens, qui, je rappelle, était en tout cas, étaient pour la plupart pendant la Révolution française dans le camp des royalistes. Donc, les fameuses guerres de Vendée, je vous invite à aller voir ça, c'est passionnant.
Ouais, les vieilles habitudes ont la vie dure, hein, comme on dit.
Voilà.
Darmanin, par ailleurs, qui pourrait être un candidat au présidentiel de 2027, il y avait des rumeurs couloirs dans les médias aussi, mm-hmm. qui parleraient peut-être, qui pourraient éventuellement se présenter, à voir s'il va jouer cette carte.
Je t'avoue que je suis assez perplexe quant à ça, parce que ce qui lui permettait de se mettre de l'avant beaucoup, c'était le fait qu'il était justement ministre de l'Intérieur. Ça lui permettait d'avoir une voix comme sur la place médiatique, puis de se faire un peu connaître. Là, maintenant qu'il n'est plus ministre, puis que les élections présidentielles, tu sais, bon, c'est pas... en tout cas, ça n'arrive pas tant demain que ça. Je me demande vraiment comment il va réussir à spinner tout ça, puis voir s'il va arriver en force ou si le projet tombe à l'eau. Bon, moi, ça ne m'arrangerait pas que ça tombe à l'eau, parce que je l'aime pas, mais bon, en tout cas, bien hâte de voir, ça va être intéressant. Puis aussi, rappelons que le vote du budget est un vote crucial. La priorité numéro un du gouvernement Barnier, on en parlait un petit peu la semaine dernière, puis dans l'autre semaine, quand on parlait un peu de politique française, que la priorité numéro un du gouvernement, ben, ça reste l'élaboration et le vote du budget de l'année 2025. Dont les grandes orientations seraient d'améliorer la situation budgétaire du pays qui est jugée par le gouvernement comme étant très grave. Rappelons que le vote du budget est un vote crucial dans un parlement, puis que si ce dernier tombe à l'eau, ça pourrait entraîner une paralysie de l'Assemblée nationale, donc revenir exactement à la case départ, voilà, case numéro 1. Donc voilà, la France a un nouveau gouvernement qui est mal reçu chez une grande partie des acteurs politiques, mais qui mise sur le compromis pour amener un peu de stabilité dans le pays. Voilà des petits trucs à surveiller si vous vous intéressez au sujet. La présentation du budget 2025, donc qui va arriver sous peu. Aussi, comment le RN va jouer ses cartes, notamment en lien avec la motion de censure. Puis, à quel point Macron va assumer son virage à droite. Et moi, je pensais notamment au fait de... J'ai hâte de voir à quel point, justement, c'est les ministres qui ont été nommés. Donc, il y en a beaucoup de droite. Là. Je vous invite à aller regarder la liste. Très belle page Wikipédia sur le nouveau gouvernement. Ils ont été très proactifs. Donc, on aime. Puis, je vous invite à aller voir ça pour vraiment vous dresser un portrait de l'orientation politique du gouvernement. C'est des partis que si vous n'êtes pas férus en politique française, vous allez être surpris de voir là. Donc, il y a beaucoup de ministres issus de divers droites. Donc, le ministre de gauche est issu de divers gauches. Donc, des partis de... des personnes qui appartiennent à la gauche, mais qui sont pas dans les grands partis. Donc, notamment le PS, LFI, les Verts ou les communistes. Donc, voilà. Est-ce que... Il y a l'enjeu de la représentation démocratique. Donc, il est vraiment très mis soulevé. Mais, à date, avec l'image qu'il renvoie, puis les orientations qu'il semble donner... Je suis assez mitigé sur... Mm-hmm. Ouais, je vais pas m'opposer tout de suite directement. Je vais pas faire mon gros réactionnaire de gauche, mais c'est à surveiller.
Et puis, tu sais, il dit que, pour revenir à ce que tu disais, Félix, tu sais que t'es mitigé, t'as hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais il dit qu'il est basé sur le compromis, donc là, il reste juste à attendre, voir s'il va vraiment faire qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire, tu sais.
Ben, c'est ça l'enjeu, c'est toujours l'enjeu. Tous les politiciens disent qu'ils sont basés sur le compromis, mm-hmm. sur l'écoute, puis tout. Fait que ça reste, bon, les promesses électorales, on le voit là, c'est, ça veut rien dire. Fait qu'il va vraiment falloir voir dans l'ajustement concret. Mais bon, on est quand même gâtés, il y a beaucoup d'enjeux importants puis clivants en France. On les connaît, les Français, qui sont beaucoup à cheval sur justement la politique. Donc, hâte de voir qu'est-ce qu'il y a.
Super. Rémi, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, peut-être une autre chose à surveiller. Puis honnêtement, je ne sais pas où ça va aller dans les prochains jours, mais le mardi 17 septembre, la procédure de destitution d'Emmanuel Macron qui avait été lancée par LFI a passé une étape importante. Ben, c'est passé l'étape du bureau, en fait, bureau des procédures de l'Assemblée nationale qui vérifie si le document était conforme au niveau légal. Donc, selon ce bureau-là, oui, ce l'est. Donc, on va voir où ça va se rendre maintenant. Les prochaines étapes, entre autres, c'est de se rendre au vote des deux tiers de l'Assemblée nationale, au vote des deux tiers du Sénat. C'est pas gagné, mais quand on parlait de la question de la légitimité démocratique, je pense que LFI, puis en général le NFP, donc les écologistes, les Verts, le Parti communiste, le PS, vont essayer de jouer de cette carte-là, entre autres, là, pour mettre de l'avant comment il y a eu un j'irais pas jusqu'à dire un coup d'État, mais disons qu'il y a eu un...
Un accrochement au pouvoir.
Si ouais, comment Macron s'accroche au pouvoir de façon antidémocratique. Mais bref, à surveiller absolument, mais on aura l'occasion de s'en reparler, j'en suis certain, dans les prochaines semaines.
D'ailleurs, beaucoup de gens qui soulèvent la pertinence de la dissolution de l'Assemblée nationale cet été, considérant ce que ça a donné, donc voilà. Sujet intéressant.
Oui, merci beaucoup, Félix. Donc maintenant, on va passer à la chronique de Megan.
Ah, oh, c'est ma chronique. Je n'étais pas prête, pardon. Je pensais que je passais en dernier.
Ah, ben...
Oui, ben non, ben... Je peux y aller, aucun problème. Donc oui, Félix, c'est en effet la belle chronique. Puis, comme tu as dit, il faut voir qu'on check les prochaines semaines parce que ça change constamment en France. OK, donc, comme je l'ai mentionné tantôt, le 22 septembre, c'est une journée qui est super importante dans l'histoire du Québec, mais on l'oublie souvent. Donc, combien de personnes ici savaient que le 22 septembre, t'es inscrit dans les journées patrimoniales du Québec?
Désolé.
Non, moi non plus.
Exactement. Donc, on l'oublie souvent. Le 22 septembre, en fait, c'est la journée à laquelle les filles du roi sont arrivées en Nouvelle-France. Donc, c'est pour cette raison-là qu'en 2013, le gouvernement du Québec a décidé de le mettre dans son calendrier. Et donc, pour souligner justement leur arrivée, j'ai décidé qu'on allait toutes partir là, à la rencontre de ces femmes-là qui ont été oubliées un peu dans l'histoire pour qu'on apprenne un peu plus à les connaître et surtout comment elles ont eu un impact sur le Québec, impact qui est très, très important. Donc là, on retourne dans le temps. Je veux que vous imaginez au 17e siècle, la Nouvelle-France est encore super jeune. C'est un territoire qui est vaste, sauvage, avec pas grand monde et pas grand-chose. Et vous êtes le roi, donc notre fameux Louis XIV. Et vous rêvez de voir cette belle colonie-là devenir quelque chose de beau, prospérer et se développer. Mais là, vous avez un problème. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, votre population, ben, elle grandit pas mal. Donc, c'est quoi la solution que vous avez? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Bien, vous décidez d'envoyer des jeunes femmes pour régler la situation-là et ces femmes-là qu'on va appeler les fées du roi. Donc, entre 1663 et 1673, c'est environ 800 jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans qui ont quitté la France pour traverser l'Atlantique et aller nous rejoindre, en fait, les colons en Nouvelle-France. Et elles avaient un objectif qui était clair, net et précis. Elles devaient trouver un mari, fonder une famille et contribuer à la croissance de la colonie. Donc, une petite mission assez simple. Et en fait, c'est le roi qui a décidé de prendre en charge tout leur voyage, leur trousseau, et qui leur donnait un petit montant d'argent à avoir avec elles une fois qu'elles arrivaient en Nouvelle-France. C'est d'où leur surnom, les Fées du roi. Mais en fait, le nom, les Fées du roi, ça vient d'où? Bien, ça vient d'une autre femme qui est super importante, puis que vous avez probablement pas entendu également du nom, qui s'appelle Marguerite Bourgeois. Est-ce que vous connaissez Marguerite Bourgeois?
Et oui!
Ouais? Oui? Oui? Ah, je suis contente! Donc, Marguerite Bourgeois, en fait, c'est une enseignante de Montréal qui est vraiment été en avance sur son temps. Elle va prôner l'éducation gratuite pour tout le monde, filles et garçons, sans vraiment de distinction entre les pauvres et les riches. Puis, c'est aussi une des premières qui va apporter, en fait, le fait de ne pas utiliser des châtiments corporels à l'école, ce qui, on s'entend, pour cette époque-là, est une super avancée. Oui, Félix?
D'ailleurs, petite dédicace hein, aux jeunes caquistes qui... veulent revenir à cette époque-là. Voilà, c'est mon petit éditorial. Ça dégage.
On pense à eux. Donc, c'est ça. Donc, Marguerite Bourgeois va avoir, à son époque, va devoir accueillir certaines femmes, ben, certaines filles du roi et va devoir les guider pour leur apprendre un peu comment fonctionne la Nouvelle-France, ça va être quoi leur rôle exactement. Et c'est Marguerite et les collègues avec qui elle a accueilli les jeunes femmes qui a décidé de les nommer les filles du roi. Et depuis, le nom est resté. Donc, on l'oublie souvent, mais les filles du roi vont avoir joué un rôle extrêmement important pour la Nouvelle-France. Pas seulement celui d'être la femme des pionniers du Québec. C'est vrai, ils ont fait des bébés, les familles ont permis de tripler la population de la colonie en moins de 10 ans, ce qui est énorme, là, en fait. Là. Mais en plus d'être des femmes puis des mères, elles ont accompli vraiment beaucoup plus de choses. On parle souvent des filles du roi comme étant des prostituées. C'est quelque chose qui référence beaucoup des personnes qui pensent que c'est des prostituées.
C'est fou.
Oui, exactement, ou des femmes de moyenne vertu. Mais ça, comme Félix l'a dit, c'est totalement faux. Et ça, en fait, cette vision-là nous provient d'un baron qui s'appelle Louis-Armand Lahotan. J'essaie de dire son nom le mieux possible. Qui, en fait, lui avait été envoyé en Nouvelle-France pour enquêter sur la colonie. C'est dans ses lettres, et là, je vais vous citer sa lettre en essayant de comprendre le vieux français. Donc, il disait « On y envoya de France plusieurs vaisseaux chargés de filles de moyenne vertu. Ces vestales et toits, pour ainsi dire, entassés les unes sur les autres en trois différentes salles où les époux choisissent soi, leur épouse de la manière que le boucher va choisir les moutons au milieu d'un troupeau. »
Gros.
C'est... un vrai gentleman. Un vrai gentleman, ce baron. Donc, c'est lui qui a apporté cette mythe-là, en fait, que ces femmes-là étaient de moyenne vertu. Puis, au contraire, en fait, les femmes, pour faire le voyage, ben, devaient avoir un sceau d'approbation qui disait qu'elles étaient approbation de bonne conduite. Donc, c'est pas n'importe qui. Certaines d'entre elles, en effet, avaient été des anciennes prostituées. Il y en a quelques-unes, mais c'est très peu si on compare là, à la majorité des femmes qui ont fait le voyage.
Puis, je sais pas si à quel point c'est une légende urbaine ou si c'est vrai, mais il me semble que. Bon, là, c'est mes cours d'histoire de seconde, mais. Il me semble que c'était pour la plupart des orphelines, donc rien
à
voir.
Exactement, oui, beaucoup.
Rien à voir avec des prostituées.
Non, exactement, beaucoup de ces personnes-là, comme tu l'as dit, c'était des orphelines qui n'avaient pas de famille, donc ont décidé d'établir la mienne en Nouvelle-France.
Puis c'est logique parce que faut garder à l'esprit qu'à l'époque, ce voyage-là était très périlleux, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à faire le voyage vers la Nouvelle-France là, dans des conditions pas toujours faciles. Fait que c'est sûr que quand quand t'as pas de famille, quand t'es orphelin, orpheline, ben t'as plus d'intérêt à tenter de te lancer dans l'aventure.
Exactement. Hein. Ouais, totalement. Fait que non, donc c'est ça. Donc le baron qui a commencé à porter cette image-là des femmes, mais en fait, on oublie que si on parle français en Amérique du Nord puis au Québec, ben c'est grâce aux fées du roi. Donc, je vous explique un peu. À l'époque, en France, on parlait plus souvent le patois que le français. Et le français était parlé seulement en Paris, puis dans la banlieue parisienne, disons. Et, oui.
Le patois, c'est un type de français.
C'est un dérivé. Là. Ouais, ouais,
c'est c'était genre le français populaire de l'époque. Mais c'était quand même...
C'était rough, oui.
Ouais. Voilà.
Fait que c'est ça. Donc, le français était seulement parlé à Paris, puis plus de la moitié des filles du roi venaient de la région parisienne, donc c'est elles qui parlaient le français. Et donc, quand elles sont arrivées en Nouvelle-France, elles ont transmis la langue française à leurs enfants, et c'est comme ça que le français est devenu populer l'Amérique du Nord. Mmh. Donc, Félix, qui aime autant, justement, là, fier défendeur de la langue française, ce sont grâce à nos filles du roi. Et donc...
Impressionnant.
Oui, hein, c'est ça je me dis aussi. Puis c'est pas juste ça, en fait. C'est aussi eux qui ont construit les sociétés parce qu'on parle, tu sais, la famille, leurs maris, mais on n'oublie pas que la majorité de leurs maris, c'était des coureurs des bois. Donc, passaient la majorité de leur temps à l'extérieur, en forêt, à courir les bois, comme on le dit. C'était donc ces femmes-là qui devaient prendre en charge la maison, qui devaient s'occuper de la famille et transmettre toute la culture et le savoir. Donc, toute la culture québécoise s'est créée également grâce à ces femmes-là qui l'ont transmis à leurs enfants. Puis, vu que les maris n'étaient pas là, ben, la majorité d'entre elles ont dû prendre en charge toutes les décisions. Donc, c'est également des femmes avec beaucoup de caractère et beaucoup quand même de pouvoir là, qui leadaient la maison, mettons. Et petit fun fact, contrairement à ce que le baron disait que c'est les hommes qui choisissaient les femmes et elles devaient se soumettre automatiquement, ben il y a 15% des filles du roi qui ont divorcé leur premier mariage. Ce qui est quand même énorme,
badass.
Là. Ouais, vraiment.
Pour l'époque, badass.
Exactement. Wow. Donc, si leur mariage, ça leur plaisait pas, ils n'étaient pas contentes, mais il y en a 15% d'entre elles qui ont divorcé puis qui sont parties se remarier par la suite. Donc, shout-out à ces femmes-là. Donc, c'est pas mal ça pour moi, ma petite chronique. Comme je l'ai mentionné, je vais juste faire un petit retour sur les filles du roi. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qui elles sont exactement? Puis maintenant, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un, vous allez pouvoir vous en parler. Vous allez pouvoir soulever le fait que c'était pas seulement des mères et des femmes, mais également des pionnières puis des femmes de caractère pour l'histoire du Québec.
D'ailleurs, qu'on devrait appeler femmes du roi.
Pardon?
Je trouve qu'on devrait les appeler femmes du roi au lieu de filles du roi.
Oui, en effet.
C'est plus justifié.
Mais oui, totalement. Ouais.
Oh, Félix, un vrai féministe dans l'âme.
Et voilà.
Un allié.
Du poème.
Mais quand on y pense, là, on peut dire que dans le fond, notre culture québécoise, notre société, elle a été fondée sur une approche plutôt matriarcale. Quand on y pense, mais à cause du patriarcat, il y a toujours dominé. Mais au fond,
ben
c'est
oui,
les
quand
femmes
vient,
qui ont fait en sorte
ben
qu'on
oui, puis encore
ici.
Aujourd'hui, tu sais... Là, c'est certain qu'on voit des changements de dynamique au sein de la cellule familiale, mais reste que pendant plusieurs années, c'est encore la mère qui était à la maison, qui s'occupait de ses enfants. Donc, elle joue un rôle super important dans tout ce qui est la transmission de la culture. Puis, on les oublie souvent, on dirait, on les laisse dans l'ombre, on leur donne pas le mérite qu'elles doivent recevoir. Mais oui, les femmes ont joué un rôle extrêmement important dans justement l'identité québécoise, la culture québécoise. C'est elles qui ont permis de transmettre puis de le donner aux enfants. Donc oui, comme tu l'as dit, on les oublie souvent avec toute la société patriarcale dans laquelle on vit, mais elle en a fait beaucoup, là.
Puis c'était un rôle important, mais je serais pas prêt à dire genre que la société a été fondée sur un modèle matriarcal. Puis je veux pas que ça n'en demeure que les positions de pouvoir qui étaient encore
exactement.
Plus violentes à l'époque. Puis tout ce qui est lié aussi au clergé, c'était occupé par,
totalement,
par des hommes jusqu'à récemment, puis même encore aujourd'hui.
Ouais.
On le voit dans le gouvernement, ok, c'est peut-être paritaire, mais les gros ministères
les
sont
gros
occupés
ministères
par des hommes. Donc voilà. C'est ça. Rôle hyper important, mais je trouve que ça soulève aussi des inquiétudes quant à rôle des hommes dans la société à l'époque et aujourd'hui.
Oui, oui. Puis pour faire du pouce là-dessus, Félix, je pense que c'est le rôle aujourd'hui des jeunes générations, puis des gens qui sont ici au 21e siècle. Bon, le 21e siècle a ses défauts, mais on peut regarder le passé avec un angle neuf et donner le crédit où le crédit est dû à ces filles, à ces femmes du roi qui ont défriché la terre, comme on dit. Puis c'est sûr que la déconstruction du patriarcat, on pourrait en parler longtemps. C'est dommage qu'on n'ait pas...
Quel spin incroyable de chronique.
Mais on pourrait en parler longtemps, mais clairement, il faut faire la différence entre la structure de pouvoir et les postes de pouvoir, ainsi que
le foyer domestique.
Exactement. Ouais. C'est comme la sphère publique, sphère privée. Il y a des débats, puis on pourrait le faire. Mais ce serait intéressant, une chronique ou un segment d'émission sur le féminisme contemporain, analysé d'un point de vue comparé.
Là. Un segment d'émission, ça nous en prendrait trois émissions complètes. Mais oui, en effet, c'est quelque chose qui mérite d'être discuté. Donc voilà, trois dernières chroniques. Moi, je me retire.
Super, merci Mégane. Donc effectivement, on pourrait peut-être en discuter dans un prochain podcast. Mais sur ce, on s'en va en pause et on revient un peu plus tard. De retour après la pause. Donc Rémi, la place est à toi où tu veux nous parler du sommet de l'avenir.
Oui, donc en gros, en fin de semaine, donc il y a eu le sommet de l'avenir à l'ONU qui était en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Et grosso modo, là, on va mettre un petit peu la table à c'est quoi le sommet de l'avenir. En gros, à la base, le sommet de l'avenir, c'est un projet de, on pourrait dire, de redynamisme des principes de l'ONU, des structures de l'ONU et de remettre l'accent, de renforcer les initiatives comme l'agenda 2030 pour les objectifs durables, donc les 17 ODD et les 169 autres qui viennent avec. Merci. Il y avait, en plus de cela, toute une question de réforme des institutions onusienne, donc réformer le Conseil de sécurité, réformer la finance mondiale. Et c'était une initiative qui était planifiée là, depuis 2022 là, avec la résolution 76-307 de l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc, ça fait vraiment longtemps que c'est en arrière-plan. C'est l'Allemagne et la Namibie, oui, qui ont vraiment travaillé là-dessus là, depuis plusieurs années. Et on voit les fruits aujourd'hui. C'est un peu mitigé. Je vais en parler un peu plus tard, là, mais il y a eu beaucoup de négociations, il y a eu beaucoup de critiques à gauche, à droite sur ce pacte pour l'avenir qui, selon le secrétaire général de l'ONU, là, sert à établir un avenir meilleur considérant les tensions et la remise en question là, des différents principes des droits de l'homme, du déni en face des changements climatiques, de l'inaction climatique. Et Antonio Guterres souhaitait une ambition maximale, mais il y a eu quand même une tentative d'obstruction, de la part, évidemment, là, de la Russie, soutenu par le Bélarus, l'Iran, la Corée du Nord, le Nicaragua et la Syrie, là, qui ont présenté en fin de semaine un amendement souhaitant que l'ONU affirme que l'organisation ne pouvait pas intervenir dans les affaires internes des États, mais cela a été refusé là, par une majorité de l'Assemblée. Et ce fameux texte-là, puis si je vais un peu plus en détail, là, le texte qui, à la base, dresse un constat des problèmes de l'ONU qu'on connaît, là, paralysie du Conseil de sécurité, bureaucratie lourde, difficulté à avoir des outils contraignants sur les États, ainsi qu'un pacte numérique mondial donc, qui parlait de l'intelligence artificielle, des bénéfices potentiels, mais des menaces aussi que ça a pour l'humanité, pour les relations internationales, et une déclaration pour les générations futures qui mettait l'accent sur, en fait, toutes les conséquences que l'inaction climatique et
le refus de certains États de mettre des efforts pour atteindre les objectifs, par exemple, de traités comme le pacte traité de Paris, la charte de 2030 avec les différents objectifs de développement durable. Comment ça, en fait, quand on le fait pas, quand on l'applique pas dans le moment présent, ben, ça a des conséquences sur les générations futures. Ça vient empiéter leur possibilités. Et là, honnêtement, malgré... on pourrait dire des bonnes intentions. Les diplomates ont été assez critiques. Là. Je vous lis des petites citations, là, mais plusieurs démocrates qui sont restés anonymes ont parlé d'eau tiède, d'un traité décevant qui n'amène pas d'idée 2.0. Là, que quand on essaie de faire un compromis, un consensus onusien avec près de 200 pays, ben qu'on se rend compte qu'espérer un accord ambitieux, c'est un peu comme à faire un vœu pieux, là, si on veut. Là. Honnêtement, c'était trop ambitieux, peut-être. Et toute la question de comment traduire des traités issus de négociations avec autant de parties en des accords contraignants qui vont être suivis, là, avec vraiment des outils mesurables qui vont être respectés. C'est toute la question de l'ONU, en fait. Et même là, si je vous montre le vote, là, on parlait de, pour ce pacte pour l'avenir, on parle de 143 votes en faveur, 7 votes contre et 15 abstentions. Donc, on parle quand même d'une majorité quand même importante de votes pour. Mais au final, est-ce que ça va changer quelque chose? À voir. Les diplomates n'étaient pas convaincus. Les journalistes mitigés, les analystes, comme pour bien des choses concernant l'ONU, est-ce que c'est du pétage des nuages? Est-ce qu'on va arriver à quelque chose au final avec ça? À voir. Mais en toute franchise, c'est quand même mieux que rien, considérant que l'ONU est décrit depuis des années. Là, en fait, le mandat d'Antonio Guterres, là, qui est secrétaire général de l'ONU depuis 2016-2017, n'a pas été facile. Le conflit russo-ukrainien, la pandémie, le conflit israélo-palestinien, ça... Les événements à Gaza, ça n'a pas été un mandat facile pour le secrétaire général et il essaie de pousser les enjeux de fond malgré les donc tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est améliorer le niveau de vie, favoriser le maintien de la paix et la consolidation de la sécurité, les enjeux féministes, les enjeux de diversité de genre, les enjeux de stabilité démocratique, tout ça. Le secrétaire général et les États membres de l'ONU ont tenté de le faire malgré une conjoncture difficile de la COVID-19 qui est venue mettre des bâtons dans les roues à bien des égards. Mais je pense qu'on peut sortir de ça avec... Je me sens un peu inspiré, mais mitigé. Un peu mitigé quand même. Là. Faut se le dire, mais je serais curieux de voir les impacts que ça va avoir parce que, comme vous savez, essayer de réformer le Conseil de sécurité... C'est toute une affaire là, avec le droit de veto. Là, c'est comme un servicieux. Là, tu peux pas réformer le Conseil de sécurité parce que le droit de veto empêche d'enlever le droit de veto. Donc, c'est pas toujours facile. Mais on en rit, mais quand même, il y a une forme de tragédie derrière tout ça. Mais au niveau aussi plus canadien, on va parler de politique étrangère un petit peu. Justin Trudeau a fait un discours à l'ONU, un discours où est-ce qu'il exhortait les dirigeants du monde, de partout dans le monde, de renforcer leur engagement envers les principes de l'ONU, les principes de la charte, de suivre l'exemple du Canada avec sa politique féministe dans le monde, de renforcer leurs investissements contre les changements climatiques, pour l'adaptation au changement climatique, et de continuer à travailler ensemble. Le discours classique du Canada de Justin Trudeau. Honnêtement, ça s'inscrit aussi pour le premier ministre à un moment crucial où est-ce que son gouvernement est fragile, où est-ce qu'à tout moment une élection pourrait déclencher, où est-ce que sa popularité n'a jamais été aussi basse dans les sondages. Clairement, Justin Trudeau essaye de jouer la carte la proactivité, de la présence sur la scène internationale, mais est-ce que ça paye? D'un point de vue électoral, là, si je me réfère à certains cours que nous avons eus avec des très estimés professeurs, la politique étrangère, les enjeux internationaux, c'est pas ça qui fait bouger l'aiguille d'une élection. C'est pas ça qui fait bouger le sondage. Donc, à voir. Mais écoutez, le Canada présent sur la scène internationale, est-ce que ces belles paroles très, très nobles, est-ce qu'elles vont se traduire en actions concrètes par la suite, autant du point de vue canadien que du point de vue onusien en général? Parce qu'on parle, on parle du Canada, mais c'est aussi tous les autres pays du monde. Là. Justin Trudeau va par ailleurs avoir une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le premier ministre japonais, ainsi que faire une rencontre portant sur les changements climatiques avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc, au moins, Justin Trudeau en profite pour renforcer les relations multilatérales, bilatérales, avec des partenaires importants comme l'Union européenne. On se rappelle l'Union européenne qui est un de nos principaux partenaires économiques au Canada. Au total, là, le deuxième après les États-Unis et avec qui le Canada a un accord de libre-échange depuis 2017 qui est en place de façon provisoire et qui est appliqué à 95% de toutes ces dispositions depuis 2017 et qui attend sa ratification finale. Donc, tout ça pour dire, sommet de l'avenir, très chargé. Est-ce que ça va changer quelque chose? À voir. Mais je prendrai peut-être vos réactions sur le système onusien, sur ces belles paroles. Je sais que des fois, les réalistes parmi nous sont plus sceptiques. Merci, Félix. Je vais prendre des petits commentaires, peut-être.
Moi, je voulais juste dire que tu l'as soulevé un petit peu... quant aux réactions des diplomates qui disent, bon, est-ce que cette réforme-là va vraiment servir à quelque chose, considérant que, en tout cas, la multitude des enjeux auxquels l'ONU fait face. Mais je me demande, en fait, si on n'assiste pas justement à l'espèce de mur que l'ONU... On disait qu'à un moment donné, l'ONU allait frapper un mur, peut-être qu'on en est là, tu sais, avec les polycrises et tout. Donc voilà, bien hâte de voir si ça va prendre plus, en fait, comme réforme, donc une réforme genre plus structurelle, puis justement, qu'est-ce qu'on va faire avec l'enjeu du droit de veto? Donc, fascinant, super intéressant.
Non, mais un peu comme Félix dit, c'est tellement une grosse question, c'est un enjeu qu'on entend parler depuis longtemps, là, les réformes de l'ONU, qu'on le sait, il y a clairement des problèmes, il y a des obstacles qui viennent freiner le bon fonctionnement de l'ONU. Comment y remédier? Là, c'est la question à un million, là, personne n'est capable. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, C'est ça, j'ai pas de réponse. T'sais. Autant moi, justement, j'ai un peu le côté réaliste que je me dis l'ONU, c'est des beaux mots sur papier, mais rendu dans la vraie vie, c'est ça, ça a de la difficulté. Là, mais non, peut-être qu'une réforme va être capable de venir me faire changer ma vision de l'ONU. Qui sait, peut-être que je vais commencer à voir là, à quel point elle va aider au maintien de la paix à travers le monde. Parce que jusqu'à présent, mettons que cet objectif-là, c'est ça. On bouge la tête comme Félix à côté.
C'est à travailler.
C'est à travailler.
Comme on dirait en anglais, c'est un work in progress.
Oui, vraiment. Un progress depuis un bon bout de temps. Là.
Mais en parlant de changement, on va voir, parce que ça fait quand même depuis un certain temps que Antonio Guterres est secrétaire général de l'ONU. Peut-être qu'il va avoir un changement de bord éventuellement. Peut-être qu'il ne va pas solliciter un deuxième mandat. Donc, à voir si un changement éventuel de leadership onusien au niveau de la fonction publique onusienne, on se rappelle, pourrait peut-être amener un dynamisme, un vent de fraîcheur, une nouvelle impulsion à cette organisation fort décriée, mais fort utile comme centre de discussion, d'échange à l'international. Donc, merci beaucoup pour ces beaux commentaires, cette belle analyse de votre part pour revenir sur l'ONU. Puis, je pense qu'on va continuer à suivre l'ONU de façon sporadique, avec une certaine distance et peut-être voir plus la politique étrangère canadienne, qu'est-ce qui se passe avec les élections.
Super, merci Rémi pour ça. Moi, la seule chose que je voudrais rajouter, c'est un truc qui me fâche, là, c'est que, tu sais, exemple, on parle des 5 membres du Conseil permanent et on prône la paix, la sécurité, mais qu'il y a encore des membres sur le Conseil qui ne prônent pas la sécurité et la paix internationale. On pense notamment à la Russie et tout le conflit en Ukraine. Et je me demande, est-ce que réellement, il y a quelqu'un qui va être là pour les arrêter un jour? On ne le sait pas. Fait qu'encore là, mon côté réaliste dit, je le crois pas.
Ouais, mais c'est ça, c'est l'enjeu des grandes puissances.
Mais c'est ça.
Celui qui foutent la merde, c'est eux. Puis les seuls qui peuvent les arrêter, c'est eux.
Mais donc, à la fin, c'est peut-être pas un problème de structure, de réforme, c'est vraiment plus de pouvoir. C'est un problème de pouvoir. Moi, c'est de la façon que je le vois, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais...
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas à quel point il y a des structures, les structures peuvent limiter ces ajustements-là, mais... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Là, on termine ça avec un point un peu négatif, triste, mais c'est la réalité un peu.
C'est la réalité, mais
d'un point de vue, j'amenais peut-être un point de vue plus libéral ou constructiviste, mais une des choses importantes aussi à souvenir, c'est que l'ONU, c'est un contenant. Mm-hmm. L'ONU, c'est un contenant, comme le très cher illustre professeur Kuntz ou enseignant Kuntz nous l'a rappelé dans son cours sur l'ONU à la session d'hiver dernier, que l'ONU va être déterminée par le travail et la volonté, l'engagement que les États membres qui ont ratifié la charte de l'ONU sont prêts et prêtes à mettre dans cet organisme-là. Donc l'ONU est un reflet des dynamiques de pouvoir, comme tu l'as mentionné, Lijane, de façon très, très précise et véridique, mais aussi de leur volonté et de leur engagement moral à améliorer réellement les choses plutôt que à se livrer à des batailles de pouvoir hypocrites, mm-hmm. où est-ce qu'on cherche à atteindre la puissance d'un point de vue très 20e siècle.
On en parle souvent en droit international, mais malheureusement, ce qui guide toutes les relations et ces choses-là, c'est tout simplement le principe de bonne foi. On se base sur la bonne foi de chaque État qui a décidé de ratifier. Rendu là, on n'a aucun moyen là, de pouvoir le guider davantage. Donc, ouais, c'est une grosse question, un gros enjeu.
Droit international, droit mou. C'est pareil, j'ai...
Drop the bomb, Félix. Et
voilà.
Pow!
En mode classe 8.
Donc, sur ce, merci à nos chers auditeurs d'être encore à notre écoute. Et c'était tout pour nous aujourd'hui. On se rejoint la semaine prochaine en espérant que Renaud soit avec nous et qu'on fasse une belle émission de 2 heures. Sur ce, bonne journée tout le monde.
Au revoir.